Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à la place des îles sur l'échiquier géopolitique mondial. Loin d'être isolées, les îles sont des pièces essentielles des stratégies développées par certains États pour contrôler de vastes étendues maritimes. Beaucoup de discours contemporains sur les îles développent la notion de handicap insulaire, dépendance économique et énergétique, dégradation écologique, transport coûteux et implosion démographique. Qu'en est-il réellement? C'est ce que nous allons voir avec Marie Redon, géographe, maître de conférences à Paris 13 et auteur de Géopolitique des îles aux éditions Le Cavalier Bleu. Bonjour.
Bonjour.
Les îles en tant qu'objets spatiaux qui ne résonnent pas tout à fait comme les autres, à l'heure où quelques 460 000 îles sont référencées par une base de données constituée par le programme des Nations Unies pour l'environnement et l'Institut de recherche pour le développement. Est-ce que l'on peut dire que la mondialisation a renouvelé l'approche des îles en ce qu'elle concentre finalement les grands processus géopolitiques contemporains? On peut citer l'immigration, la régionalisation, le tourisme de masse, les paradis fiscaux, le changement climatique. Peut-être pour commencer, Marie Redon, une définition d'une île. Qu'est-ce qu'une île?
La définition paraît patente. Si on demande à quelqu'un « dessinez-moi une île », assez spontanément, on aura une petite terre entourée d'eau et ça pourrait s'arrêter là. Donc une terre entourée d'eau, certes, mais quelle terre? Quelle taille de terre? Est-ce que un rocher, un îlot? Est-ce que une terre qui n'est pas émergée à marée basse peut être considérée comme une île? Est-ce que l'Angleterre est toujours une île malgré le tunnel sous la Manche? Est-ce que l'île de Ré est toujours une île? Donc il y a finalement à la fois quelque chose de très évident dans cette notion d'île, de très confortable pour la pensée, et en même temps énormément de complexité quand on s'approche des îles dans ce qu'est in fine leur définition. Donc définition simple, une terre entourée d'eau, définition plus complexe, sans doute nous allons en parler au cours de cette émission. Ce qui me paraît important, c'est que la définition même de l'île est en train de devenir un enjeu de géopolitique et un enjeu économique majeur.
Alors justement, on le développera bien sûr, et c'est ce que je disais précédemment, finalement la mondialisation a renouvelé l'approche des îles et on comprendra pourquoi, mais de façon assez récente. Quelques mots peut-être pour situer. Qu'est-ce que l'on peut dire du rôle des îles, Marie Redon, dans l'histoire de la Méditerranée, par exemple, et des Antilles? Méditerranée, pour commencer.
Alors oui, la Méditerranée, parce que c'est notre histoire antique, la mythologie, les voyages d'Ulysse, d'île en île. On est vraiment baigné d'îles et bercé d'îles. Alors, peut-être comme rôle spécifique, disons, ces puissances insulaires qui ont tenu tête à des puissances continentales pendant plusieurs décennies, voire siècles. On peut prendre quelques exemples. L'île de Rhodes, par exemple, qui a été une cité très prospère. On pense peut-être au colosse de Rhodes, qui faisait partie de ces merveilles du monde, mais qui était aussi une très grande puissance maritime, qui a dominé toute l'Asie mineure et toute la mer Égée, parce que la situation d'insularité lui permettait à la fois de contrôler, tout en étant à l'écart et un petit peu protégé de ce qui se passait sur les continents. Et puis, finalement, c'est Rome qui va prendre le dessus, mais on a un peu perdu de vue que Rhodes a été, cette île de Rhodes, qui n'est pas bien grande, a été la concurrente de la puissante Rome. Et puis ensuite, l'île est devenue le siège de Saint-Jean de Jérusalem à partir du XIVe siècle. Donc là aussi, un autre type de pouvoir religieux, celui-là, on peut passer de Rhodes à Malte, avec le grand siège qui a eu lieu à La Valette. Alors, ce que ça montre, c'est que sur ces espaces insulaires, encore une fois, Rhodes, Malte, on peut aussi penser à la Sicile en Méditerranée, qui a été le siège d'un pouvoir phénicien, puis les Grecs, puis les musulmans, puis un émirat, puis les Normands, puis les Italiens. Enfin, une succession de pouvoirs sur ces espaces qui sont à la fois donc des carrefours de culture, des carrefours de civilisation. Alors, en Sicile, par exemple, on a énormément de traces historiques, architecturales de ces influences successives. Et de par ce phénomène de carrefour, des lieux de rayonnement, que ce soit politique, culturel et militaire, qui dépassent la taille de l'île. C'est-à-dire que l'originalité, sans doute, en tout cas dans l'histoire de la Méditerranée, c'est que il ne s'agit pas de puissance fondée sur une étendue spatiale importante. On n'est pas dans la puissance des États-Unis, par exemple, où l'emprise spatiale est majeure. On est au contraire sur des petits espaces, des petits territoires, mais qui rayonnent bien au-delà, parce qu'ils sont sur des routes maritimes, parce qu'ils sont sur des situations de carrefour.
Alors, est-ce que tout ce que vous venez d'évoquer là, Marie Redon, carrefour de culture et de civilisation, lieu de rayonnement qui dépasse la taille de l'île, est-ce que l'on retrouve, et on était dans le pourtour méditerranéen, est-ce que on retrouve ces mêmes critères, par exemple, aux Antilles?
Alors la différence, d'abord, bon, évidemment, on fait un bond historique pour les Antilles. On passe après 1492 et on
découverte
passe
en philologie. Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb.
On passe à l'époque moderne. Et là, les îles des Antilles sont, pour la plupart, surtout sous domination européenne. Quand j'évoquais tout à l'heure Rhodes, Malte, la Sicile, etc., on reste sur des enjeux locaux, si on peut dire, alors que les Antilles vont avoir pour particularité d'être comme un échiquier, comme une mosaïque de projection de puissance depuis l'autre côté de la Méditerranée. C'est-à-dire, vous avez une île qui va être appropriée par les Espagnols. C'est généralement le processus. Puis, les Espagnols sont chassés à partir du 16e, 17e siècle par soit les Français, soit les Anglais, soit les Hollandais. Et on va se retrouver ainsi avec un chapelet d'îles qui vont appartenir à des puissances européennes distinctes. L'originalité, ça va être surtout sur les grandes Antilles. Alors, je pense à Haïti. Alors Haïti qui partage son île, si on peut dire, avec la République dominicaine, et où là, la révolte des esclaves et la proclamation de la première République noire en 1804 en a fait à la fois un modèle et un repoussoir, un repoussoir pour justement les puissances européennes coloniales, à partir de 1804, qui fait que le rayonnement d'Haïti, jusqu'à l'heure actuelle, dépasse encore une fois ces 27 000 km² et ces 10 millions d'habitants. On est dans une construction historique qui dépasse l'île, de la même façon avec Cuba, plus tard, évidemment, au XXe siècle. Mais donc, pour différencier un peu le rôle des îles dans la Méditerranée et le rôle des îles dans les Antilles, je dirais que dans les Antilles, on a un jeu à plus de joueurs, si on peut dire, et avec une projection de puissance depuis par-delà l'océan Atlantique. Et on est moins dans des enjeux locaux, en tout cas régionaux, comme c'est le cas en Méditerranée.
Alors, on va bien sûr développer le rôle accru des îles et on va revenir sur la multiplication des micro-États, la reconnaissance par l'ONU des petits États insulaires en développement, et puis surtout en 1982, la promulgation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer avec la reconnaissance de la zone économique exclusive. Mais avant cela, Marie Redon, puisque vous évoquiez Cuba à l'instant, vous écrivez dans votre livre que chaque période de l'histoire a été marquée par l'hégémonie d'une île. Et il y a toujours des îles dont l'importance politique dépasse les dimensions réel de l'île, dimension géographique, à l'instar donc de Cuba, dont le destin a marqué la partie du XXe siècle. Alors, il y a eu Cuba, il y a encore Cuba, et peut-être Taïwan aujourd'hui de plus en plus.
Oui, sans doute que Taïwan joue un rôle majeur parce que elle apparaît, cette île, contre le David contre Goliath, le contre-pouvoir à cette République populaire de Chine qui est en train de prendre une place, et notamment une place en tant que puissance maritime très importante. Et ce qui est intéressant avec Taïwan, c'est comment s'est dessinée peu à peu cette confrontation de part et d'autre de ce détroit de Taïwan entre un espace insulaire qui a été chinois puis japonais, c'est-à-dire qu'on a tendance à oublier que avant même l'après-seconde guerre mondiale, depuis 1895, Taïwan n'était plus chinoise, elle était japonaise, donc elle était déjà, si on peut dire, traite à la patrie, entre guillemets. Puis donc s'y installer le gouvernement du Kuomintang en 49 et ce face-à-face entre la République de Chine, donc qu'incarne Taïwan et qui se revendique comme étant la vraie Chine, face à la République populaire de Chine qui est cette masse continentale. Donc c'est assez spectaculaire d'avoir ces deux revendications d'incarner la vraie Chine entre une île de taille relativement réduite d'un côté et cet espace continental de l'autre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment le reste du monde, en tout cas à travers l'ONU et les principales puissances, se positionnent dans ce face-à-face, puisque le siège de la Chine à l'ONU était à Taïwan jusqu'en 71, puis finalement, avec la réelle politique, on se dit, oui, bon, entre ce petit territoire insulaire et puis l'espace chinois, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux basculer? Et puis finalement, le siège de l'ONU à l'heure actuelle, c'est celui de la République populaire de Chine. Ce qu'on a tendance aussi à ne pas voir un peu de loin, c'est à quel point ce détroit de Taïwan est extrêmement militarisé, surveillé, il est sous contrôle et sous tension aussi. Et peut-être qu'on peut faire le parallèle entre cette résistance taïwanaise face à la puissance chinoise avec ce qui se passe actuellement à Hong Kong. Alors, il y a une île dans le territoire de Hong Kong, mais Il n'y a pas que l'espace insulaire, mais on a cette notion d'exception territoriale qui s'est construite au fil de l'histoire. Donc là, il ne s'agit pas de historique japonais, mais britannique. Hein. Et on retrouve comme point commun ce petit territoire qui ne veut pas être absorbé par la grosse puissance continentale. Donc oui, pour répondre à votre question, il me semble qu'en effet, Taïwan peut être considéré à l'heure actuelle comme un exemple, un très bon exemple de résistance insulaire, ou en tout cas de modèle insulaire face à une domination chinoise qui fait peur un petit peu à tout le monde.
Alors si on pousse plus loin le raisonnement, Marie Redon, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui qu'il y a une spécificité lié à la situation insulaire?
Alors ça, c'est un très grand débat chez les géographes. Est-ce que l'insularité est déterminante? Vous savez, la question du déterminisme en géographie, dont on se méfie toujours, le déterminisme pouvant mener à des raccourcis de pensée parfois dangereux, en disant c'est parce que il fait chaud qu'on travaille plus ou qu'on travaille moins. Et ce déterminisme de la situation géographique est contrebalancé par le fait qu'il y a, vous avez commencé par citer ces 460 000 îles, sur les 460 000 îles, on ne peut pas parler d'une insularité. Évidemment, il y a autant d'îles que de façons de faire avec l'insularité. Et ce déterminisme, il est critiqué aussi par qu'est-ce qui fait vraiment dans un territoire la particularité du rapport à l'espace. Est-ce que c'est parce que c'est une île ou alors c'est parce qu'elle est en Méditerranée, dans les Antilles, en Asie du Sud-Est? Donc les différents facteurs qui déterminent l'organisation spatiale ne sont pas forcément très évidents à démêler, si on peut dire. Ce qui est certain, et c'est ce que j'essaie de défendre, on n'est pas dans des grandes théories, mais de défendre depuis que je travaille sur les îles, c'est la différence entre l'île en tant qu'objet de pensée, l'île avec une majuscule, si vous voulez, l'idée île. Et là, on peut dire que oui, il y a une spécificité de l'insularité, ne serait-ce que parce que pour la pensée, j'ai commencé par là, hein, une île, c'est facile à imaginer, à se représenter. Et face à cette spécificité de l'idée île, il y a toute une variété extraordinaire de destins insulaires et de trajectoires insulaires, avec des îles qui sont à un moment donné fortes d'un très grand développement économique, puis qui tombent dans des abysses d'oubli et de pauvreté, puis qui vont... Mais de la même façon que d'autres types de territoires, de la même façon que des zones de montagne, de la même façon que des villes. Il y a bien des villes qui apparaissent, des villes qui disparaissent. Aux États-Unis, en ce moment, on parle des shrinking cities, les villes qui se rétrécissent, voilà, comme Détroit. Donc, il faut toujours être prudent, je crois, dans cette analyse des facteurs, et c'est un peu le propre de la géographie et de la géopolitique, hein, que d'essayer de complexifier la pensée, en tout cas de ne pas la simplifier.
Alors, les États insulaires, acteurs de la scène internationale. On a vu les choses évoluer récemment. Les États insulaires, ils n'ont fait leur apparition qu'assez tardivement, hein, finalement, sur la scène géopolitique mondiale. Vous évoquez les années 50, 1950. Avant, elles étaient englobées, ces îles, dans des ensembles à dominante continentale. Alors, un État insulaire, l'ONU a opté pour le seuil d'une population inférieure à 1,5 million d'habitants. Je donne quelques dates pour poser l'importance du rôle des îles aujourd'hui. 1992, reconnaissance par l'ONU des petits États insulaires en développement comme un groupe spécifique au sein de l'organisation. La négociation d'ailleurs des voix des PEID, comme on les appelle, donc petits États insulaires en développement, est un enjeu important. Cette reconnaissance, elle est intervenue 10 années après la promulgation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982. Et la reconnaissance, donc, je l'évoquais tout à l'heure, de la zone économique exclusive de 200 000 nautiques décisive dans le statut des États insulaires sur la scène internationale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, l'ONU a œuvré de manière peut-être inconsciente, je ne sais pas, en tout cas en prenant les mesures qu'elle a prises au cours du 20e siècle, elle a œuvré au développement de l'importance du rôle des îles dans les relations internationales, Marie Redon.
Oui, c'est le principe de l'ONU qui est cette équité théorique entre les États. Hein. Une voix égale une voix, juridiquement un État égale un État. Mêlé à ce qui précède avec la société des nations et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est quand même fondamental dans cette démultiplication du nombre d'États. Hein, on est pratiquement à 200 États dans le monde à l'heure actuelle. Et évidemment, si on se remet un siècle en arrière, le nombre d'États qui avaient voix au chapitre était beaucoup moins important. Donc, comment dire, la concomitance entre multiplication du nombre d'États, d'une part, qui est permise par cette protection onusienne, par cette internationalisation de la légitimité à exister en tant qu'État, d'une part. Puis, d'autre part, l'existence de ces, effectivement, zones économiques exclusives et ce droit de la mer à partir de 1982, dont vous venez d'évoquer, effectivement, cette Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. On la qualifie souvent d'énorme constitution des océans et du droit maritime. Et le fait que, dorénavant, chacun des États et de ces États, donc de plus en plus nombreux, et par voie de fait de plus en plus petits, puissent se prévaloir d'un espace maritime. Alors il y a un géographe qui s'appelle Philippe Pelletier, grand spécialiste du Japon, qui a inventé le néologisme de méritoire, qui est fondé sur le rapport entre mer et terre. Donc si effectivement chacun de ces petits États, petits par la taille, peut se prévaloir d'un méritoire, on va aboutir, et c'est le cas à l'heure actuelle, à une avancée de la souveraineté de la terre vers la mer. Et ces États sont d'autant plus importants, sont d'autant plus viables que dorénavant, ils ont accès à ces zones économiques exclusives. Donc 200 000 nautiques, ça fait à peu près 370 kilomètres, pour donner quelque chose qui est plus parlant comme chiffre peut-être. Ce qui signifie qu'à partir du trait de côte, on avance vers la haute mer jusqu'à 370 kilomètres. Ça, c'est le droit international actuel. Et il y a des revendications qui sont en train de se faire jour et qui sont en train d'être tranchées par la Cour internationale de justice, de prolonger cette zone économique exclusive de 200 000 à 350 000 nautiques. Et là, ça nous amène à plus de 600 km en haute mer. Donc si on regarde une planisphère qui met en évidence ces zones économiques exclusives, on voit que la haute mer se réduit comme peau de chagrin, avec cette avancée de la souveraineté des États de plus en plus nombreux, encore une fois, vers la pleine mer. Donc oui, le rôle de l'ONU a été déterminant. Un, parce qu'il a permis l'existence de ces entités étatiques qui pouvait apparaître comme étant de seconde zone dans un premier temps parce que plus petit, parce que ne reposant pas sur les mêmes vecteurs de puissance que les vieilles puissances coloniales, et avec ce droit maritime qui leur donne une assise océanique qui vient compenser un petit peu peut-être l'assise terrestre.
Alors, cette revendication d'une extension de la zone économique exclusive fait finalement, vous le disiez, reculer la frontière de la haute mer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme conséquence géopolitique si ça venait à aboutir? Et d'ailleurs, les revendications, de qui viennent-elles?
Alors, elles viennent généralement, comme toujours, des principales puissances. La France fait ce genre de revendications.
Et alors, la France, pardonnez-moi, je vous interromps deux secondes, qui, grâce à la création des zones économiques, est devenue la deuxième puissance maritime au monde derrière les États-Unis.
En tout cas, le deuxième méritoire, qui possède la plus grande zone économique exclusive. Et c'est là qu'il y a un autre facteur qui va jouer, c'est ce qu'on possède comme territoire maritime, ce qui veut, vous voyez bien le problème du terme, c'est oxymorique, d'une part, et qu'est-ce qu'on a pour contrôler cet espace maritime? Si on regarde le classement un peu des ZE, le premier pays, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis qui possèdent à la fois une ZE considérable, grâce au fait qu'ils n'ont pas de voisins face à leur façade maritime, que ce soit côté Atlantique ou que ce soit du côté Pacifique. Parce que, évidemment, ce qu'on a évoqué comme avancée vers la haute mer, ça n'est valable que quand il n'y a personne en face, si on peut dire, en Méditerranée. Personne n'a une ZEE qui atteint les 200 000 nautiques, encore moins en mer Égée, dans la mer des Caraïbes non plus. Donc il faut bien imaginer que quand se font face deux territoires, c'est la règle de l'équidistance qui va primer sur cette extension possible. Donc les États-Unis première ZEE, la France effectivement en seconde position, grâce à ses outre-mer, donc grâce à cette histoire coloniale qui fait que les territoires polynésiens rapportent la moitié de la ZEE française, qui fait que la Nouvelle-Calédonie, dont le statut va évoluer, eh bien si elle repart, elle repart avec sa ZEE dans son escarcelle, ce qui pose un peu des difficultés. Les terres australes et antarctiques françaises aussi, ces territoires qui ont un statut un peu le fait du prince, ou sur lesquels il y a des militaires, des scientifiques, on ne sait pas très bien à quoi ça sert d'avoir les Crozet, l'Amsterdam, les Kerguelen, tout ça, ça rapporte entre guillemets de la ZEE. Et pour revenir à votre question de
conséquences géopolitiques, moi je vous propose qu'on attende la deuxième partie de l'émission pour aborder cette conséquence géopolitique d'une extension possible de la zone économique exclusive. Marie Redon, on vous retrouve après le journal. À tout de suite.
Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la place des îles, sur l'échiquier géopolitique mondial. Nous retrouvons notre invitée Marie Redon, géographe, maître de conférence à Paris 13 et auteur de Géopolitique des îles, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Marie Redon, on évoquait à la fin de la première partie de l'émission la zone donc économique exclusive de 200 000 nautiques. Cette reconnaissance a été faite par l'ONU avec la promulgation en 1982 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 200 000 nautiques avec revendication de certains États, lesquels, les grandes puissances, pour pousser cette zone économique exclusive à 350 000, des tensions à venir sur...
Alors oui, des tensions forcément à venir. Alors c'est le cas du côté de l'océan glacial arctique, par exemple, où là, on va avoir, quand on regarde la Terre d'en haut, si on peut dire, enfin, en tout cas, vu du pôle Nord, hein, on a des voisinages entre les États-Unis, évidemment, la Russie, le Canada. Et si on essaie de projeter ces extensions de ZEE, on se retrouve avec, évidemment, des tiraillements dans ces appropriations. Simplement pour préciser pourquoi 350 000 et pourquoi 200 000, j'aurais peut-être dû le préciser précédemment aussi, ce 200 000, cette largeur n'est pas choisie au hasard, c'est simplement que ça correspond toujours d'ailleurs au courant de Humboldt, à la largeur du courant de Humboldt, courant qui longe la côte pacifique. Et cette revendication des 200 000 nautiques a été faite par les États côtiers, donc le Pérou, le Chili, pour protéger leur zone de pêche. Parce que quand on évoque cette zone économique exclusive, les termes sont importants, les États veulent conserver en exclusivité les ressources à la fois halieutiques, donc les ressources de pêche, et les ressources du sous-sol. Et les 350 000 nautiques correspondraient à une extension dans la limite du plateau continental. Donc là, on entre un peu dans la topographie sous-marine. Ce plateau continental, c'est le prolongement, on va dire, topographique de la Terre dans la mer. Et c'est généralement dans le sous-sol du plateau continental qu'on va trouver les ressources pétrolières, parce que c'est un terme, évidemment, sous-jacent à toutes ces revendications. Donc, les États qui se trouvent sans voisins en face, pour reprendre une expression un peu familière, mais donc qui peuvent étendre, qui ont un plateau continental qui dépasse les 200 000 nautiques avec du pétrole, soit avéré, soit espéré, dans leur sous-sol, vont essayer d'avancer leurs limites. Alors, c'est le cas des principales puissances qui ont déjà de grandes ZEE. Ça va être le cas de la France, ça va être le cas des États-Unis. Enfin, on reprend les mêmes et on recommence, en fait, pour cette appropriation territoriale. Donc, des conflits à la fois, je parlais tout à l'heure de l'océan glacial arctique, et aussi des conflits dans les espaces restreints, c'est-à-dire là où il y a, justement, pas la place de tracer ces grandes ZEE de 350 000.
Alors, est-ce que dans ce panorama que vous venez de décrire, la question et la stratégie de la Chine s'inscrit dans ce que vous évoquez à l'instant? Je repère que vous avez défini en début de première partie d'émission la notion d'une île. Je rappelle qu'elle doit revêtir un caractère naturel. Alors, la Chine en mer de Chine, on pense évidemment aux îles Spratleys et Paracel, on la voit construire, élargir ces îles, parce que tout cela est légal. Elles sont revendiquées par d'autres pays, ces îles d'ailleurs, le Vietnam, je parle sous votre contrôle, les Philippines, la Malaisie. Donc voilà, est-ce que on peut, il y a déjà eu des points de tension autour de tout cela. Donc voilà, quelques mots sur la mer de Chine, Marie Redon.
Alors effectivement, comme on disait en début d'émission, il y a la définition facile de l'île, terre entourée d'eau, et à l'heure actuelle, les définitions juridique pointue de l'île, parce que c'est pas tant l'île elle-même qui intéresse ou le rocher que la ZEE qu'il y a autour. Alors, très récemment, je crois que c'est en 2016 ou 2017, un jugement de la Cour internationale de justice de l'AE a été rendu, explicitant la définition de l'île en disant que ça devait être donc une terre émergée à marée haute et pas d'origine artificielle, mais bien d'origine naturelle. Et le dernier élément, c'est qu'elle doit pouvoir se prêter à l'habitat humain. Alors en anglais, c'est sustain. Et ce terme de se prêter à l'habitat humain est évidemment un petit peu tendancieux, parce que est-ce que c'est se prêter à l'habitat humain moyennant ravitaillement par l'extérieur ou en autonomie? Pas très évident. En tout cas, les juristes sont en train, les spécialistes du droit maritime, de réfléchir à cette notion. Et dans le cas des Spratleys, des Paracels et de ce que vous évoquez, c'est-à-dire, je crois que c'était en 2014, on a vu ces photographies qui amusaient un petit peu tout le monde. On voyait ces îles grossir, ces îlots grossir, avec l'espoir pour la Chine de passer du rocher, justement, rochers qui n'étaient pas émergés à marée haute et qui n'avaient pas statut d'île, si on peut dire, de devenir des îles, de passer du rocher à l'île en faisant des constructions du type héliport, port, etc. Le jugement de la Cour internationale a été de dire non, ça ne sont pas des îles, ce sont des rochers, donc vous n'avez pas droit à une ZEE avec ces objets géographiques. Vous avez droit à une mer territoriale, c'est de 6 000 nautiques, mais vous n'avez pas droit à la ZEE. Donc on voit comment la définition même de l'île vient prendre une importance. Juste peut-être pour faire un parallèle, la France, on en a parlé tout à l'heure, possède donc une ZEE considérable et 430 000 km de la ZEE sont formés par Clipperton. Et Clipperton, c'est un tout petit atoll qui se situe à 1000 km au large du Mexique, qui fait 5 km² en comptant le lagon et sur lequel il n'y a rien. Hein, si on regarde une image de Clipperton, il n'y a rien. Et justement, ça nous donne droit à nous, enfin en tout cas à la France, à de la ZEE, alors que si on applique la dernière définition d'une île par les juristes, ben c'est pas une île. Le Mexique, d'ailleurs, est en train de menacer la France, de faire valoir que Clipperton n'est pas une île. Donc on voit à quel point, finalement, ces définitions ne sont pas si simples que ça, mais parce que elles engendrent des enjeux qui dépassent largement le caillou ou le rocher ou l'île.
Alors, après la mer de Chine, quelques mots sur l'océan Indien, Marie Redon.
Oui, alors, l'océan Indien et la mer de Chine, le parallèle qu'on peut faire, en tout cas, entre ces deux espaces, c'est comment les nouvelles grandes puissances sur la scène internationale, on sait bien l'histoire de la Chine, en tout cas, elles sont en train d'essayer de se tailler une part d'espace maritime et de se tailler une part de puissance maritime, là où les anciennes grandes puissances l'occupaient depuis longtemps. Alors, on parle souvent de la Chine avec cette stratégie du collier de perles qui est en réalité de s'approprier ou de faire des partenariats avec les pays bordiers de la route qui mène de la Chine jusque au golfe Persique, d'où sort évidemment le pétrole, les hydrocarbures qui sont absolument nécessaires au ravitaillement de la Chine. Et ces petits territoires avec ces bases militaires chinoises sont une façon de contrôler la route maritime qui permet d'approvisionner la Chine. De la même façon, l'Inde essaie aussi de poser ses pions sur cet échiquier qui est en train de se fermer, avec par exemple des bases navales sur l'île d'Andaman et de Nicobar, dans le détroit de Malacca, qui permet aussi de contrôler les routes maritimes. Une tentative aux Seychelles, mais qui n'a pas fonctionné. Donc l'Inde aussi essaie dans cet océan Indien, là, pour le coup, de poser ses billes. Pour la Chine, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en train aussi de devenir une puissance maritime, dans le sens où des porte-avions sont dorénavant chinois. La Chine s'équipe en porte-avions. Il ne s'agit pas d'avoir simplement de la ZEE, comme le disait tout à l'heure, mais aussi de pouvoir la surveiller, de pouvoir croiser dans cette ZEE pour la protéger, si on peut dire. Donc, océan Indien, oui, c'est un objectif de la puissance chinoise, parce que c'est sur le trajet de ses approvisionnements en hydrocarbures, avec des détroits à contrôler très importants, et des bases militaires. Quand on regarde une carte de l'océan Indien, on y voit des bases militaires états-uniennes. On peut penser à Diego Garcia, qui est en plein milieu de l'océan Indien, une toute petite île qui est de souveraineté britannique, mais sur lesquelles il y a un accord entre les deux États pour que les états-uniens puissent aussi y avoir une base. Donc, pour résumer, en tout cas sur cette mer de Chine dont vous parliez tout à l'heure avec les Spartelets, les Paracels et l'océan Indien, quand on regarde des cartes, on voit qu'on a vraiment une fermeture de ces espaces maritimes et une tension accrue parce qu'il y a une course à l'appropriation à la fois territoriale par les îles et surtout méritoriale, si on peut dire, par les ZEE auxquelles elles donnent droit pour les ressources halieutiques pétrolières et pour le contrôle des passages stratégiques, puisque comme 80% des échanges mondiaux sont faits par voie maritime, évidemment, avoir une île en plein milieu d'un détroit, comme c'est le cas pour la France, détroit du Mozambique avec les îles Éparses par exemple, eh ben ça veut dire avoir un droit de regard, en tout cas, sur ce qui se passe et sur ce qui passe dans les détroits.
Alors, course à l'appropriation, c'est cela que je retiendrai de ce que vous venez de dire, Marie Redon. On poursuit. Les îles, lieu emblématique des tiraillements du monde contemporain, on le voit avec la question des flux migratoires. On le voit aussi avec cette notion écologique, environnement, les îles berceaux d'une sensibilité environnementale. Quelques mots sur ces questions, Marie Redon.
Je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit ce que j'essayais de dire tout à l'heure sur l'île en tant qu'idée et en tant qu'objet confortable pour la pensée d'un côté, et les îles en tant que réalité multiple. Sur les phénomènes migratoires, il y a à l'heure actuelle l'île de Lampedusa, par exemple, qui cristallise à la fois dans la réalité, hein, c'est-à-dire avec le nombre de personnes qui essaient de l'atteindre, qui y transitent, etc., et aussi médiatiquement, donc à la fois dans la réalité et dans sa représentation, qui cristallise un petit peu cette ère des flux migratoires qui inquiète d'un côté, qu'on essaie de contrôler de l'autre. Dans la réalité de est-ce que les routes migratoires passent plus par les îles qu'ailleurs ? Non. Et là, quand on regarde encore une fois les trajets des migrants, la majorité des migrants sur la planète ne passent pas par des îles. Mais cette image d'un petit espace qui devient d'un seul coup, victime, ou en tout cas qui se retrouve envahi par des flots de migrants qui y arrivent, ça marque les esprits. De la même façon, on peut faire le parallèle avec, vous l'avez évoqué, hein, les îles face au changement climatique. Mmh. On voit beaucoup, on entend beaucoup les représentants de certains petits états insulaires en développement, des états du Pacifique, hein, par exemple, qui se revendiquent, qui se positionnent, hein, à travers des espèces de lobby de petits états insulaires comme étant les principaux états victimes en devenir de la montée des eaux. Non, effectivement, ce sont des îles basses, hein, des îles coralliennes basses. Dans la réalité, la montée des eaux menace évidemment ces îles, mais en quantité de population touchée, c'est plutôt du côté du Bangladesh qu'il faut regarder, c'est plutôt du côté de toutes ces côtes basses surpeuplées. Mais l'île menacée, l'île engloutie, on rejoint l'Atlantide, hein, on rejoint ce bain imaginaire dans lequel on baigne depuis notre enfance, et puis depuis aussi des siècles et des siècles de littérature, de philosophie insulaire. En tout cas, l'île menacée d'être engloutie est beaucoup plus parlante et beaucoup plus signifiante que la côte d'un État comme le Bangladesh qui ne fait pas rêver grand monde.
Il y a aussi de nombreux États qui sont aujourd'hui démunis face à leurs îles surpeuplées ou soumises à une forte pression touristique. Alors je fais juste une petite aparté, l'image des îles isolées, vous en avez dit quelques mots pour précisément nous expliquer que les États insulaires ont des relations entre eux. Il y a plusieurs alliances, je pense à l'alliance, alors donc des petits États insulaires, c'est une cinquantaine de pays, 20% des pays de l'ONU, moins de 1% de la population mondiale. Il y a la Fédération des petites îles européennes, le Forum des îles du Pacifique. On n'a peut-être pas le temps de développer tout ça, mais c'était important de préciser que ces îles étaient organisées et qu'il y avait des échanges. J'aimerais qu'on aborde alors finalement, et tout ça est sur le même registre, hein, l'argent. Alors, les îles paradis fiscaux insulaires, les îles lieux d'activité des jeux d'argent, les îles relais sur les routes du trafic de drogue. Marie Redon, selon le FMI, l'ensemble des paradis financiers drainerait environ 5 500 milliards d'euros d'avoirs financiers, fruit d'une évasion fiscale à travers environ 4 000 banques offshore et 2,4 millions de sociétés écrans. Les chiffres sont assez vertigineux. Il y aurait environ 50 paradis fiscaux dans le monde, selon le CDE. La plupart des paradis fiscaux sont des îles. Est-ce qu'il faut y voir là, c'est comme pour les activités d'argent et routes du trafic de drogue, une sorte de compensation du handicap de l'insularité ?
Alors, compensation du handicap, disons qu'il y a quelque chose de pratique et de confortable à externaliser un certain nombre de fonctions, de services, parce que malheureusement, ces paradis fiscaux rendent des services à un certain type d'acteurs, hein, d'acteurs de la finance. Et on évoquait encore une fois ce chiffre de 460 000 îles. Sur ces 460 000 îles, il y en a simplement une trentaine ou une quarantaine qui va être paradis fiscaux. Toutes les îles ne font pas dans le paradis fiscal. Celles qui font, entre guillemets, dans le paradis fiscal, ce sont principalement les îles qui étaient sous influence au gouvernement britannique, hein, donc les territoires ultramarins britanniques. Ils vont aussi se situer dans l'espace caribéen à proximité des États-Unis. On va toujours avoir des îles qui sont dans des aires d'influence, des États qui les utilisent. Il y a comme une espèce de correspondance entre gros États continentaux et son pendant insulaire qui lui permet, donc les îles Vierges par exemple, ou les Bahamas, etc. Comme s'il y avait donc une circulation évidemment entre l'île et le continent, et cette circulation arrange un petit peu tout le monde. Elle arrange évidemment les insulaires Alors, je ne ferai pas une généralité de tous les insulaires qui sont ravis d'habiter dans un paradis fiscal, mais en tout cas, ça fait fonctionner évidemment l'économie de l'île. Et souvent, on a un mélange entre tourisme. Hein, quand on dit les Bahamas, on pense paradis fiscal, mais on pense aussi plage, cocotier, sable blanc, cocktail, etc. Donc, ça arrange les insulaires et ça arrange aussi évidemment certains acteurs de ces États continentaux. Est-ce que c'est une façon de contrebalancer ? En tout cas, c'est une façon de prendre sa part de l'économie mondiale. Mmh. Alors, pendant toute une période, si on reparle des Antilles qu'on évoquait tout à l'heure, hein, les îles à sucre, elles subissaient un petit peu ce système économique mis en place par les Européens avec le fait que leur fonction était de produire du sucre à destination de l'Europe avec le recours à l'esclavage. Là, disons que la fonction de ces États insulaires ou de ces territoires insulaires paradis fiscaux, c'est de produire une libéralité économique qui arrange un petit peu tout le monde, mais dans lequel ils ne sont pas uniquement passifs. Hein, il y a aussi quand même une part volontaire. Peut-être pour citer un exemple qui est assez méconnu, Chypre, l'île est connue. La partition de Chypre, en général, on l'a aussi en tête, mmh. entre la partie sud, qui est la République de Chypre, grécophone, la partie nord, qui est, selon le point de vue, soit occupée par la Turquie, soit la République turque de Chypre du Nord. Et ce Chypre turc est en réalité aussi une zone de libéralité ou une zone grise de la Turquie, hein, avec une extraterritorialisation, une projection à l'extérieur du continent de ce qui dérange la Turquie. Vous parliez des jeux tout à l'heure. Mmh. Et ben effectivement, les jeux d'argent sont interdits en Turquie depuis les années 90. Et les casinos se sont surdéveloppés à Chypre Nord depuis cette période-là, parce que c'est l'ère de jeu de la Turquie. Donc, ça rejoint aussi un petit peu cet imaginaire des pirates, mmh. de la licence insulaire. L'île permettrait de faire ce qu'on n'a pas droit de faire, pardon pour la familiarité de la formule, mmh. mais sur le continent. On peut s'y livrer à des choses à la fois économiquement, ludiquement, puis après il y a tout cet imaginaire aussi mmh. de la licence érotique, bon, etc., mmh. qu'on ne peut pas faire sur le continent. Mmh. Oui. Le trafic de drogue aussi d'ailleurs, dont vous parliez tout à l'heure.
Alors Chypre qui finalement regroupe, enfin coche pas mal de cases sur les classifications des îles, hein. On n'en a pas parlé par manque de temps, ce sont les îles partagées. Chypre, donc, entre la Turquie et la Grèce. Et puis, il y a bien sûr, vous l'avez évoqué précédemment, Haïti, Saint-Domingue. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, îles partagées et puis paradis fiscal et îles de jeu. Alors, il y a aussi, très rapidement, les îles fabriquées, les navires de croisière. Alors, le chiffre aussi est incroyable en termes de progression. Vous le citez, nombre de croisiéristes en 1990. Il y avait 3 700 000 croisiéristes, et il y a aujourd'hui, en 2019, 25 millions de personnes dans le monde qui font des croisières. Et puis, il y a aussi ces îles que l'on crée. Je passe du registre touristique au registre politique. Ce projet de l'Arabie Saoudite de faire un canal le long de la frontière avec le Qatar, son petit voisin. Marie Redon.
Oui, cette idée de faire un canal pour se séparer d'eux, c'est assez symptomatique justement de ce qu'on évoquait tout à l'heure. On ne supporte pas de faire partie du même continuum territorial et donc on se sépare par l'espace maritime. Alors est-ce que ça va vraiment créer une île ? On va revenir à la définition de l'insularité. En tout cas, c'est une volonté de mise à l'écart qui est à la fois concrète, hein, puisque on est en train de chiffrer le creusement de ce canal, et qui est symboliquement très forte. Donc on a vraiment cette idée d'être enfermé avec un voisin par l'insularité, et donc créer un canal, c'est vraiment mettre à l'écart et puis pouvoir contrôler mieux aussi, puisqu'on isole et donc on contrôle. Et ce que vous disiez sur le croisiérisme qui est en pleine expansion, ça va avec la massification des loisirs, la massification évidemment de l'accès au tourisme, au déplacement, etc. Et l'avantage, entre guillemets, de ce croisiérisme, c'est qu'on se déplace avec son île, hein, sur un navire de croisière. Les acteurs, les compagnies de croisière contrôlent absolument les passagers du début à la fin. Donc, on a là un objet commercial parfait, si on peut dire, qui en plus, enfin, en tout cas, qui est créé pour répondre à cette envie d'exotisme. Bon, après, à discuter, c'est très exotique d'être dans un navire de croisière avec 6000 autres passagers. Et les mers qui sont en train de se développer comme mers à croisière, c'est à regarder du côté de l'Asie, parce que justement, la Chine dont on parlait tout à l'heure, hein, est en train de faire une entrée massive dans le secteur du tourisme, que ce soit en France, mais aussi, évidemment, sur toutes les mers du globe.
Merci Marie Redon, on l'aura compris, l'affirmation donc du rôle géopolitique et économique des îles dans un monde régi par le mercantilisme, et finalement, posséder une île permet d'exercer, de maintenir une puissance avec peut-être des moyens réduits. Je rappelle, Marie Redon, que vous êtes géographe, maître de conférences à Paris 13 et auteur de Géopolitique des îles, paru aux éditions Le Cavalier Bleu. Géopolitique était signé Marie-France Chatin, Louisa Abrit, Yaïko et Nathalie Laporte. À samedi prochain.